Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la mémoire. Nous allons aujourd'hui, avec Dominique Sabourdin-Perrin, parler d'un personnage que j'aime beaucoup, qui est un personnage peut-être même pas annexe dans l'histoire, parce qu'elle a une grande importance dans sa famille. C'est une fille de France, elle s'appelle Louise d'Artois, et vous en êtes le biographe. Vous publiez aux éditions Salvator une biographie de ce personnage qui est effectivement peut-être assez peu connue. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée à Louise d'Artois ?
C'est toute une histoire qui a commencé il y a 20 ans quand j'ai commencé à écrire Les Oubliés du Temple.
Ah oui.
Sur la famille royale enfermée au Temple. Donc je m'étais spécialisée sur Madame Élisabeth, le dauphin et sa sœur. Et puis de fil en aiguille, j'ai écrit sur la sœur de Louis XVI, Madame Clotilde, qui était complètement oubliée. Donc, j'ai vu que cette branche de France s'arrêtait en direct avec Louise d'Artois et qu'elle commençait les Bourbons-Parme, en fait. Voilà, ça continue, mais sous un autre nom. Alors, c'est ce qui a retenu mon attention.
Très bien, mais c'est vrai que là aussi, on retrouve une structure familiale avec une sœur et un frère, comme Madame Royale et son petit frère, le futur
Exactement,
Louis
et
XVI.
comme Louis XVI avec ses sœurs et sa famille, en fait.
Et donc, on retrouve là aussi une sœur et un frère avec... on est un siècle plus tard, hein, même. Oui, on est un siècle plus tard, donc les choses ont changé. Et là, on a une famille, on le montrera tout à l'heure, qui est à la fois pétrie de traditions et en même temps très ouverte aux évolutions dans les familles. C'est très intéressant. Alors cette petite Louise d'Artois, vous le dites très justement au début de votre livre, Dominique Sabourdin-Perrin, les titulatures qu'elle va avoir, qui sont extrêmement nombreuses, montre à elle seule l'histoire mouvementée de l'histoire de cette période du 19e siècle, puisqu'elle va, elle va porter des titres nombreux et différents tout au long de sa vie.
Oui, alors je me suis permis au début du livre de donner tous les titres de tout le monde, parce qu'ils ont tous eu, suivant les époques qu'ils ont vécues, les pays où ils se sont trouvés, eu différents titres. Alors Louise d'Artois, bon, on l'appelle Son Altesse Royale Louise d'Artois, Mademoiselle, fille de France. Elle devient ensuite Son Altesse Royale, la princesse héréditaire de Luc après son mariage. Ensuite Son Altesse Royale, la princesse héréditaire de Parme et de Plaisance. Enfin Son Altesse Royale, la duchesse de Parme quand elle est régente. Son Altesse Royale, la duchesse douairière de Parme et de Plaisance. Et régente du duché, et enfin son altesse royale, la duchesse douairière de Plaisance quand elle meurt.
Ouais.
Donc il y a eu des noms de complaisance. Son nom de complaisance était Artois, en fait, parce que des noms de, oui, de pas de complaisance, mais des noms, je trouve plus le terme de, par exemple, Charles X va s'appeler le comte de Ponthieu. Ils vont prendre pour aller dans la vie civile des noms différents.
Mmh.
L'Angleterre les recevra à cause de ça. La duchesse d'Angoulême va s'appeler la comtesse de Marne, parce que sa mère avait une maison. C'est lié à des terrains. Sa mère était liée à Marne la Coquette, qu'elle avait rachetée parce que la propriété avait été à Marie-Antoinette. Donc pendant la Restauration, elle a racheté ce domaine, et donc elle a pris le nom de comtesse de Marne. Alors j'ai dit Charles X, comte de Ponthieu. Voilà. Et même le père du duc de Parme va s'appeler comte de Villafranca. Enfin, ils ont tous d'autres noms.
Oui, bien sûr.
C'est difficile pour s'y retrouver.
Oui, oui, évidemment, oui. Mais alors, j'en profite pour dire à nos auditeurs, parce que nous serons amenés à parler évidemment de Charles X, puisque Louise d'Artois est sa petite fille. J'en profite pour rappeler que se tient actuellement au Mobilier National une exposition consacrée au sacre de Charles X, que l'on appelle le dernier sacre, mais on était évidemment à l'époque en 1825, on ne savait pas que ce serait le dernier sacre d'un roi de France, et que il doit y avoir à la rentrée de septembre une exposition au château de Maisons-Laffitte sur justement Charles X, bâtisseur et collectionneur, parce que on oublie, ou même peut-être certains ne le savent pas, que Maison Laffitte n'a vu le nom de Laffitte accolé à Maison que tardivement, et que le lieu dit s'appelait Maison, et le château de Maison, avec un S, était le lieu de vigilature de Charles X lorsqu'il n'était que comte d'Artois à la veille de la Révolution française. C'était sa propriété, donc au château de Maison, il a fait de grands travaux. Il y a mis une grande partie de sa collection qui a été exposée il y a quelques années en partie à la bibliothèque de la ville de Versailles. Et donc il va y avoir à la rentrée 2025 une exposition au château de Maison Laffitte sur Charles X à l'occasion du bicentenaire de son sacre en 1825. Alors cette charmante petite fille de France, Louise Marie-Thérèse d'Artois, qui porte donc comme nom, comme vous l'avez dit, de titulature en tant que fille de France, qui reprend le nom qu'avait son grand-père, puisqu'il était comte d'Artois, oui. Elle naît en 1819, elle naît au Palais de l'Élysée, ce qui est charmant, évidemment, et vous allez nous expliquer pourquoi, de qui est-elle la fille et pourquoi naît-elle au Palais de l'Élysée.
Alors, elle naît un 21 septembre et je tiens tout de suite à dire que son frère naîtra l'année suivante, le 29 septembre. Donc, ils ont vraiment un an de différence. Alors, elle est la fille du duc de Berry, donc deuxième fils du comte d'Artois. Et de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. C'est un mariage qui a été organisé par les familles royales de Naples et de Paris, dans le cadre des alliances entre Bourbons. Donc, on a beaucoup cherché pour le duc de Berry, qui avait eu une vie un petit peu dissolue, un peu scandaleuse, qui a eu une autre épouse, parce que maintenant on est certain qu'il y a eu un mariage avec une certaine Emma Brown, dont il avait eu deux filles. Donc il a fallu, je ne sais pas comment le papa réagit, il y a eu beaucoup de transactions, mais enfin on a fait ce mariage parce qu'il n'y avait pas de descendants. Le premier fils du comte d'Artois, le duc d'Angoulême, marié à la fille de Louis XVI, Marie-Thérèse d'Angoulême, n'avait pas d'enfant. Donc, on s'est reporté sur Berry et on a été content de trouver cette petite jeune fille de 17 ans. Elle était toute jeune, Marie-Caroline, qui était aussi alliée à la cour des Habsbourg, hein, et qui avait perdu sa mère très jeune, à l'âge de 3 ans, et qui avait une belle-mère qui avait été extrêmement gentille avec elle, qu'elle aimait beaucoup. Donc c'était une enfant qui n'avait pas souffert, mais quand même qui avait subi aussi différents exils deux fois. Son père et sa famille avaient été obligés de quitter Naples. Et elle a été choisie parce qu'on a fait toute la liste, on a trouvé que c'était la meilleure. Et Louis XVIII, qui voulait rétablir le trône de France, les Bourbons sur le trône de France, a décidé de faire un très grand mariage. Donc, le mariage a eu lieu à Notre-Dame. Et ensuite, il y a eu là une réception aux Tuileries, comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire que il y avait un repas assis, mais seuls les ducs, duchesses ou proches de la famille royale avaient le droit d'être assis. Tout le monde, autrement, était debout. Et on avait installé une estrade sous les fenêtres pour faire défiler les gens, pour qu'ils puissent voir les mariés. Alors, c'est un couple qui s'est bien entendu dès le départ. Il y avait pratiquement 20 ans d'écart. Lui, il avait 37 ans, elle en avait 17. Elle est tombée très amoureuse de son mari, mais lui n'était pas fidèle. Alors, elle a eu peut-être des crises de jalousie au départ, mais enfin, ça s'est calmé. Et le couple s'entendait très bien, vivait très librement, allait se promener dans Paris. Ils avaient les mêmes goûts pour la peinture, pour tout ce qui était artistique. Donc, tout semblait aller très bien. Malheureusement, ils ont perdu deux enfants avant que ne naisse notre petite Louise d'Artois. Les deux premiers, une petite fille qui était née viable, mais qui a vécu 3 jours, et qu'on a enterrée au pied de Louis XVI, à la basilique Saint-Denis, et un petit garçon qui, lui, n'a pas du tout vécu. Donc, quand Louise d'Artois est arrivée, personne n'y croyait plus. On disait que Marie-Caroline était stérile, qu'elle avait un mauvais sang, enfin tout ce qui peut se dire de méchant. Et finalement, cette petite fille va être adorée de toute la famille. Donc, comme le couple vit au palais de l'Élysée, elle naît forcément au palais de l'Élysée. Et elle a droit à tous les honneurs d'une fille de France. Donc, les gardes, on la conduit sur un coussin jusqu'à son appartement. Et les parents sont béats devant leur petite fille. Donc, elle est baptisée en décembre. C'est la duchesse d'Angoulême qui est la marraine. Et voilà. Donc, tout se passe apparemment pour le mieux jusqu'au mois de février, où ses parents vont à la 5 mois. Ses parents vont à l'opéra. Et tout le monde connaît l'histoire de l'assassinat du duc de Berry, alors qu'il a accompagné sa femme à sa voiture, ayant sa maîtresse qui jouait dans le spectacle de l'opéra, et il est poignardé par un certain Louvel. Donc, à ce moment-là, Marie-Caroline entre en transe. On ramène le duc de Berry dans l'opéra, dans un salon. Les médecins arrivent, on voit qu'il n'y a rien à faire, en fait. Dès le début, on s'en rend compte. Il est très conscient, il va demander, alors à ce moment-là, de faire venir tous ses enfants. Alors, tous ses enfants, on connaît officiellement que Louise. En fait, il va faire venir également les deux petites qu'il a eues de sa femme anglaise et qui vivaient à Paris cachées. Et là, et il va y avoir Louis XVIII aussi qui va arriver. On va avoir beaucoup de mal à monter le roi par des escaliers étroits. Enfin, il y a toute la famille réunie et on présente ses deux enfants. Louis XVIII demande qui est-ce, enfin, en quelque sorte, et on lui parle, Marie-Caroline lui parle tout bas. Et à ce moment-là, il va les appeler, leur donner des titres, comtesse de Vierzon, comtesse d'Issoudun, elles sont reconnues. Et le duc de Berry va demander qu'on les prenne dans la famille. Donc, ce qui fait qu'il a trois filles. Elles vont faire connaissance de leur petite sœur qui a 5 mois. Et donc, il a tous ses enfants avec lui. Ensuite, il meurt. On ramène Marie-Caroline avec Madame de Gontaut. Madame de Gontaut étant la gouvernante de Louise, qu'elle va élever jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près, dans la voiture où, bon, c'est normal qu'une jeune femme ait, vivant les circonstances qu'elle vit, ait des réactions dramatiques. Enfin, mais on a appris également qu'elle attend un autre enfant. Et le duc de Berry a pris la précaution de dire « Non, ne restez pas à genoux, levez-vous pour protéger celui que vous attendez. » Donc l'annonce a été officielle, qu'on ne puisse pas dire que l'enfant est de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Elle rentre à l'Élysée, mais elle ne va pas rester à l'Élysée. On va l'envoyer à Saint-Cloud. Avant que la famille royale ne s'établisse pour l'été à Saint-Cloud. Et elle va avoir sa petite fille à côté d'elle. Puis après, elles vont revenir aux Tuileries, toutes les deux. Et bien évidemment, toute la population est intriguée par l'enfant qu'elle attend, puisqu'on ne sait pas si ça va être un garçon ou une fille. Tout le monde va être pendant de sa grossesse. Qu'elle va vivre plus ou moins bien, parce qu'il va y avoir deux attentats aux Tuileries. Un dans l'entrée de la petite Louise d'Artois et un autre dans la salle de bain de la duchesse d'Angoulême. En fait, on cherche à tuer Marie-Caroline pour qu'elle ne mette pas au monde ce deuxième enfant, le petit frère de... Ok, ben ça sera un petit frère. Donc, quand il va naître, ça va être la joie de toute la population. Et on va appeler ce petit garçon l'enfant du miracle.
Juste une question, Dominique Savourdin-Perrin, sur l'enterrement du duc de Berry, parce que dans votre livre, vous dites qu'elle n'assiste pas à l'enterrement de son époux, mais qu'en revanche, Louis XVIII y assiste incognito. Oui. Je ne connaissais pas ce fait. Elle n'assiste pas à l'enterrement de son mari. Pourquoi ? Parce qu'elle est...
C'est la règle. C'est la règle.
D'accord.
C'est l'étiquette.
D'accord.
Et vous savez que le monument au duc de Berry se trouve à Saint-Denis, dans les jardins. Il est en train de s'abîmer complètement. C'est aussi un des problèmes que connaît de l'art de la culture.
Mais le monument, c'est-à-dire, c'est pas sa tombe, parce qu'il est dans le caveau des Bourbons, j'imagine.
Oui, non, mais on avait construit un monument et qui est à l'extérieur.
D'accord.
Et qui s'abîme complètement.
D'accord.
Donc, je n'ai pas été le voir.
Ah oui.
Mais parce que je ne savais pas. Quand j'étais à Saint-Denis, je ne savais pas. Je l'ai appris en écrivant ce livre. Donc, je suis retournée à Saint-Denis pour multiples raisons. Et donc, ce monument au Duc de Berry.
D'accord. Mais écoutez, je regarderai ça. Donc, en fait, si je vous pose la question, c'est parce que j'avais jamais réfléchi à ces enfants du Duc de Berry et de son épouse Marie-Caroline. Il y a donc, dans le caveau des Bourbons, Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVII.
Et donc, Louis XVII, il y a le cœur seulement.
Le cœur qui a été rajouté, mais donc
ça
voudrait dire que dans le caveau des Bourbons, enfin dit caveau des Bourbons, hein, celui qui a...
Ah bah, il y a forcément les enfants du Duc de Berry, de Marie-Caroline, les deux premiers
oui,
qui n'ont pas vécu,
qui sont là. Oui. Et le Duc de Berry, alors ?
Je pense que ça doit être...
Ah oui. Oui. D'accord. J'avais jamais réfléchi à cela parce que je regarderai de façon un petit peu plus précise effectivement qui sont parce qu'on peut le dire tout de suite à nos auditeurs. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est que à Saint-Denis, dans cette basilique, nécropole des rois de France, l'intégralité des corps ayant été profanés lors de la Révolution française, on a remis ce qu'on a pu remettre, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en tout cas, dans la tombe de Louis XVI et dans la tombe de Marie-Antoinette, il y a les quelques restes que l'on a pu trouver dans la fosse commune qui était sous l'emplacement de l'actuelle chapelle expiatoire. Et le seul roi de France qui soit enterré en entier, c'est Louis XVIII.
Et pour cause, parce que c'est après la... et que Charles X se trouve à Frohsdorf avec Louise d'Astorff.
À Gorizia. Il n'est pas à Frohsdorff.
Oui, à Gorizia, dans le monastère de Castagnavizia, en fait.
C'est ça. Donc, donc à Saint-Denis, il y a également le duc de Berry, mais qui n'a pas régné, qui n'a pas été roi de France. Donc Marie-Caroline quitte en fait le palais de l'Élysée, qui était leur résidence officielle de famille, pour rejoindre les Tuileries, qui est la résidence du roi. Oui. Et puisque nous sommes en 1820, le roi, c'est encore Louis XVIII.
Oui, jusqu'en 1824.
Qui vit donc... aux Tuileries où elle va accoucher de son petit garçon en 1821, comme vous l'avez dit, l'enfant du miracle qui sera donc le frère d'un an de moins seulement.
Ah oui, c'est quand même 21 et 29, c'est le même mois, un an après. C'est pour ça que j'ai insisté au début, ils sont vraiment vraiment très liés. Hein.
Bien sûr, oui. Et donc, cette famille endeuillée va rester là-bas avec toujours cette Madame de Gontaut qui est la gouvernante des
enfants. Donc, elle élèvera le comte le petit garçon qui, à l'époque, s'appelle Duc de Bordeaux. Hein. Il ne prendra le nom de comte de Chambord qu'après la mort du Duc d'Angoulême, hein, qui était considéré comme Louis XIX. Donc, là, il change de nom. Mais donc le petit duc de Bordeaux, qui est le cousin aussi du duc de Reichstadt, qui a 9 ans de plus que lui, et qui est né également aux Tuileries. Donc il y a eu des poèmes, enfin je crois que c'est Béranger, attendez que je ne dise pas de bêtises, il y a eu des poèmes, voilà, Victor Hugo et Béranger vont chanter, Lamartine aussi. Et il y a eu « Salut, petit cousin Germain, d'un lieu d'exil j'ose t'écrire, la fortune te tend la main, ta naissance la fait sourire. Mon premier jour fut aussi beau, point de français qui n'en convienne, les rois m'adoraient au berceau, et cependant je suis à Vienne. » Donc, ils sont cousins.
Oui, bien sûr, oui.
Parce que Louis d'Artois est né à l'Élysée, et donc le petit duc de Bordeaux naît. Et c'est Louis XVIII, qui dans la nuit de la naissance, enfin il naît pendant la nuit, et donc qui va le présenter à la fenêtre, au balcon de au pavillon de l'horloge, et il va y avoir 24 coups de canon, et ça va être des festivités, parce que c'est la naissance d'un garçon, la lignée est assurée.
Bien sûr, oui.
Et le baptême va être un an après et va être grandiose. Bon, grandiose. Les deux enfants vont être portés à bras parce qu'ils sont tout petits.
Et... Ils sont baptisés tous les deux en même temps ?
Non, elle a été baptisée avant. Elle a été baptisée le 16 décembre l'année d'avant. Mais elle est avec son frère, bien évidemment. Et Louis XVIII qui est en fauteuil, qu'on conduit. Mais ça a été, je pense, un des derniers moments très fastueux.
Mmh. Et il est baptisé
à Notre-Dame.
À Notre-Dame de Paris.
À Notre-Dame de Paris. Tout Paris était pavoisé. Il paraît qu'il y avait des couronnes de fleurs, de lys qui étaient sur les maisons. Il y avait les tapisseries à l'ancienne. Il y a eu un feu d'artifice le soir. Et c'était, il l'a fait en commémoration de son entrée dans Paris, en fait. C'était, un 1er mai. Et il l'a fait pour rappeler, bien marqué, qu'il était là.
Alors, je rappelle que nous parlons de Louise d'Artois, qui est la petite-fille de Charles X. Alors, peut-être que pour certains auditeurs, elle peut paraître un personnage accessoire de l'histoire, annexe en tout cas, mais dans cette période du XIXe siècle qui sort de la Révolution française, la Restauration est une période historique importante. Elle aura d'ailleurs... il y a des acquis sur lesquels nous vivons toujours qui datent de la Restauration, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que nous sommes dans une période, dans les années 1820, où Louis XVIII a encore un frère, Charles X a lui-même encore un fils, et puis maintenant un petit-fils en la personne du frère de Louise d'Artois. Et donc on est dans une période où on peut croire que le retour de la monarchie légitime s'est installé et que donc cette famille va régner sur le trône de France comme ce fut le cas avant 1789. Et Louise est la grande sœur d'un an. Elle est la seule d'ailleurs fille de France qui demeure, puisque il y a évidemment Madame Royale, mais vu son âge, on sait qu'elle n'aura pas d'enfant. Donc tous les regards de la survie et de la succession de la dynastie des Bourbons reposent sur ces deux enfants, Louise et Henri.
Et ils sont très très appréciés des Parisiens. Petite anecdote, Madame de Gontaut étant malade, je crois qu'elle avait eu la scarlatine, une maladie contagieuse. Et donc, elle était dans ses appartements face aux Tuileries. Et les deux enfants partant en promenade, Louise a demandé qu'on s'arrête sous les fenêtres de Madame de Gontaut pour lui faire un petit coucou. Il y a eu attroupement. Dès que les deux enfants étaient reconnus, les Parisiens se sont agglutinés au point qu'on a dit qu'on ne recommencerait jamais ce genre de choses.
Alors, Louis XVIII va mourir en 1824.
Et on va emmener les enfants près de son lit de mort. Donc, c'était très dur pour la petite Louise. Madame de Gontaut n'avait qu'une peur, c'est qu'elle mette la main sous les couvertures. Parce que comme le roi avait la gangrène, ça me paraît qu'en plus il y avait des très mauvaises odeurs, ne voulait pas qu'elle voie ses jambes. Et le petit garçon devait réciter un compliment. Donc, il ne le fera pas.
Alors, on voit au Louvre, dans la succession des salles du département des arts décoratifs, il y a eu une acquisition il y a quelques années par le Louvre et il y a la reconstitution de la chambre dans laquelle Louis XVIII est décédé. On y a ajouté le fameux berceau d'Henri, duc de Bordeaux, puis comte de Chambord, Henri V, qui avait été retrouvé à Compiègne et qui est mis dans cette chambre. Et je sais que c'est à l'occasion de la reconstitution de cette chambre qu'ils se sont rendus compte de toutes les richesses qu'ils avaient au mobilier national et qui pouvaient être exposées dans le cadre d'une exposition consacrée au sacre de Charles X. Puisque Charles X va donc monter sur le trône en remplacement de son frère mort.
En 1824.
En 1824.
Et le couronnement est en 1825.
Alors là, les enfants participent, sont présents à la cérémonie.
C'est la première fois. Dès qu'il est venu au pouvoir, les enfants continuent à l'appeler bon papa. Et ils ont ils ont eu une réaction surprenante quand la première fois où ils ont vu leur grand-père habillé tout en violet, parce que c'était le deuil des rois de France. Donc, il a dû expliquer à Louise grand-oncle était mort, et que c'est lui le roi, et elle va dire c'est bien dommage. Qu'elle va croire, on n'a jamais très bien pu expliquer ce qui s'était passé, mais elle a dû croire que son grand-père allait devenir comme son grand-oncle dans un fauteuil roulant, etc. Donc on pense que c'est ça, mais les mots d'enfance sont toujours surprenants. Et dès ce moment-là, Charles X va les associer à tout ce qu'il va faire. Déjà, il va les faire venir en 1824 à l'ouverture du Parlement, qui a lieu au Louvre. Ils vont être dans la salle tous les deux. Ce qui ne se faisait jamais. Il va, quand il va descendre les Champs-Élysées au moment de son couronnement, il va s'arrêter devant le palais de l'Élysée où il y a les deux enfants et il va entendre, soi-disant, mais c'est sûrement organisé, « bon papa », donc il s'est dirigé vers les grilles pour embrasser ses petits-enfants. Donc, il les mettait en exergue. Et il les fait venir à Reims pour son couronnement. C'est la première fois qu'un petit enfant de 4 ans assiste au couronnement d'un roi. Voilà.
Oui, bah écoutez, là aussi, on a l'habitude maintenant, avec la télévision et les couronnements de quelques rois qui sont encore sur le trône en Europe, de voir la présence des enfants dans ces cérémonies. Mais là, effectivement, le but était, j'imagine aussi, de montrer l'assurance de la succession de la dynastie.
Absolument.
Avec la présence de ces enfants dans une famille qui n'est pas aussi tentaculaire que celle qu'avait connue Louis XIV, mais qui quand même il a encore à cette époque un fils, deux belles-filles, deux petits-enfants. Là aussi, c'est une question que je souhaitais vous poser. On parle, parce qu'elle était décédée, mais on parle assez peu de l'épouse de Charles X, qui était une princesse de Savoie. Et dans votre livre, vous montrez que les deux garçons de Charles X, le duc d'Angoulême et le duc de Berry, étaient assez proches, en tout cas gardaient une mémoire très vive de leur mère, qu'ils ont même contribué, puisqu'elle est morte à Graz, hein, en Autriche, oui. À faire revenir son cœur à Naples, comme elle l'avait demandé.
À côté de Madame Clotilde, qui m'est très chère, parce que j'y étais encore en mois de février. Lorsqu'il y a eu la Révolution, vous savez très bien que le premier à partir, sur l'ordre du roi, hein, parce qu'il n'a pas fui, contrairement à tout ce qu'on dit, ça m'énerve quand on dit ça, il est parti sur ordre du roi. Et donc, il a fait partir également ses enfants. Les enfants, comme beaucoup d'autres de la famille, les Condés, vont se diriger sur Turin. Parce que les Français ne savent pas trop que Madame Clotilde, sœur de Louis XVI, avait épousé le prince de Piémont-Sardaigne. Donc, c'était tout à fait... On se retrouvait dans la famille. Même les tantes de Louis XVI qui vont partir plus tard, en 91... ou 90, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 91, vont s'arrêter à Turin, tout le monde. Donc les deux enfants vont rester avec leur mère. Marie-Thérèse était déjà partie en avance chez son père. Donc ils arrivent chez leur grand-père à Turin. Ils vont y passer quand même un ou deux ans. Ils vont aller à l'école militaire de Turin. Et ils vont être très très proches de leur mère, qui s'occupe énormément de lui. En particulier, une anecdote encore, il y a un repas où il y a le duc d'Enghien, et Marie-Thérèse de Savoie ne veut pas que ses enfants fréquentent le duc d'Enghien, qu'elle trouve trop olé olé. Donc, il y a des petites choses comme ça. Donc, ils sont très, au départ très proches de leur mère. Et puis Marie-Thérèse va, le futur Charles X arrive avec sa maîtresse, Madame de Polastron, qui est apparemment une femme très bien aussi, Madame de Polastron. Marie-Thérèse a été mariée obligatoirement, c'est les cours qui ont décidé, avec Charles X, alors qu'il aurait été heureux avec Madame de Polastron. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Les mariages arrangés et les mariages de cœur sont deux choses différentes. Mais il n'a pas été très correct vis-à-vis de sa femme. Parce que faire venir sa maîtresse là, chez son beau-père, il faut ça va loin quand même. Bon. Ce qui fait que les enfants sont restés très proches et que quand elle est morte, elle était tellement proche de Madame Clotilde, la sœur de Louis XVI, qui était qui est aussi qui est vénérable aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça que je m'occupe aussi de la béatification de Madame Élisabeth. Les deux sœurs étaient vraiment sur un courant spirituel très profond, Charitae, etc. Et Marie-Thérèse de Savoie va suivre Madame Clotilde. Elle va qui va s'occuper d'elle en fait. Et elles vont se séparer au moment où la France rentre dans le duché à Turin, hein, dans le duché de Savoie. Et Marie-Thérèse va être enterrée forcément là où elle est morte à Grasse. Mais le duc d'Angoulême, son fils aîné, va respecter son attachement pour Madame Clotilde et le cœur va être porté par le duc d'Angoulême dans une urne qui est mise à côté du tombeau de Madame Clotilde dans l'église Santa Caterina à Caille, à Naples.
À Naples, oui. Donc elles sont effectivement proches l'une de l'autre. Elles étaient belles-sœurs. Hein, donc...
Elles étaient belles-sœurs, mais Madame Clotilde était partie à l'âge de 15 ans. Ah oui. Donc elle avait peu connu, mais par contre elle a assisté Marie-Thérèse qui était déprimée, hein, qui avait une sorte de dépression, qui, quand elle voulait plus se lever... Les chocs ont été énormes quand elles ont appris la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il faut dire qu'elles se connaissaient quand même. Il y avait des liens affectifs. Et donc, Madame Clotilde, qui elle aussi a vécu très mal cette mort de son frère, va soutenir Marie-Thérèse. Et Charles X va lui enlever les enfants. Il va lui enlever ses deux fils parce qu'il va les faire entrer dans l'armée de Condé, etc. etc. Donc,
Oui, donc elle n'a pas eu une vie...
En Marie-Thérèse, il y aura aussi un livre à écrire sur elle, je pense,
oui.
Qui serait très intéressant.
Pas une vie très drôle, mais j'ai noté donc, dans votre ouvrage cette histoire de translation de cœur, ce qui montrait que les garçons étaient restés attachés à leur mère,
ah oui,
en dépit de la séparation de leurs parents. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'on a une famille royale avec tout de même une configuration de vie, de moralité, de conjugalité qui fait penser enfin, à des familles très modernes, en tout cas très contemporaines. On a d'un côté un homme qui demande sur son lit de mort à sa femme de reconnaître ses deux filles nées d'une autre liaison. Et là, on a Charles X qui, finalement, est assez content que son épouse reste à Turin et puis à Graz et qui reprend ses fils à ses côtés pour les élever. Mais voilà, c'est ainsi que... ont vécu les Bourbons de cette époque. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous parlons de Louise d'Artois, princesse européenne aux éditions Salvator, une biographie écrite par Dominique Sabourin-Perrin et que nous avançons dans la description de cette femme et de sa vie. Elle va... Donc, assister au couronnement de son grand-père et vivre à la cour de France, aux Tuileries toujours, pendant de nombreuses années.
Jusqu'en 1830, les enfants vivent entre les Tuileries, Saint-Cloud, parce que c'est la résidence d'été de la famille royale, et Rosny, le château de leur mère. Et là, Rosny, la vie est plus... Et sans étiquette. Donc elle est beaucoup plus libre. Et puis à la fin, vers 1825-26, commence Dieppe aussi l'été. On va à Dieppe. Donc les bains de mer, on commence les bains de mer. Dans le livre d'ailleurs, il y a une gravure où il y a la petite Louise en costume de bain qui va beaucoup marquer Louise. Et puis Rosny, vraiment, c'est là où toute la famille et où les sœurs aînées de Louise viennent avec leurs enfants. Parce que les deux petites ont été mariées très rapidement, devenant une faucigny du singe et l'autre une charrette, et sont intégrées dans la famille royale. Il y a un Noël où Charles X distribue les jouets et président. Et il y a un petit garçon qui est un faucigny du singe qui est en admiration devant les jouets qui sont sur la table de billard. On voit Charles X prendre son petit-fils et le mettre sur la table pour lui dire de choisir. Ce sont des scènes qu'on imagine. Quand on voit le roi, on le voit toujours sur son trône. On n'imagine pas que c'est un être humain tout à fait normal. Donc il y a une grande une grande affection dans tout, parmi tout, toute cette famille. C'est une famille liée, en quelque sorte. Et la vie de la petite Louise est une vie studieuse, parce qu'il y a, il y a une vie d'école avec son frère, où ils ont certains maîtres qui sont les mêmes et d'autres pas, parce qu'ils ont un an de différence, que les jeux des petits garçons ne sont pas ceux des petites filles de à l'époque, et qu'on commence à lui faire faire du sport. Comment dire, il y a un petit incident aussi qui est amusant pour les Parisiens. La famille royale a été très marquée par la victoire du duc d'Angoulême, donc le fils de Charles X, en Espagne, au Trocadéro. La prise du fort de Trocadéro, où l'armée française a été très victorieuse. Donc les enfants ont dû entendre parler de ce Trocadéro tout le temps à table, etc. Et un jour, il est en voiture, le petit duc de Bordeaux est en voiture avec sa sœur, et il montre à Madame de Contouille une petite colline, et il dit Trocadéro. Louis XVIII, enchanté, a décidé de faire un parc, enfin, etc., à cet endroit-là. Donc les enfants vont aller jouer très souvent au Trocadéro d'aujourd'hui, les jardins. Et alors, il y a une chèvre célèbre aussi que Louise va fleurir. On met avec eux des enfants très choisis, très triés, mais qui sont les enfants de la comtesse de Gontaut, toute la famille, les Bouillés, enfin, tout ce qui est autour de la famille royale. Et on a fait installer un portique où le petit prince peut faire de la balançoire, enfin, vous savez, des anneaux, enfin, des choses comme ça. Et tout le monde se retrouve pour des goûters qui sont rapportés dans les journaux. Leur vie est... On vient les voir travailler, on défile dans les Tuileries pour voir les petits-enfants, pour les connaître. Et Louise va connaître les premières flatteries. Et va comprendre ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui vont dire oh, qu'elle est belle et qu'elle est jolie. Et puis, il y a une porte qui est restée ouverte et elle entend tout ce qu'ils disent sur elle, en disant qu'elle est moche, qu'elle est laide. Et elle a très bien pris la chose et elle était déjà très sérieuse. Et elle a compris ce qu'on s'était moqué d'elle. Quoi.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous parlons avec mon auteur, Dominique Sabourdin-Perrin, qui publie chez Salvatore une biographie de Louise d'Artois. Et nous parlons de ce personnage. Vous avez évoqué le château de Rosny, et c'est un sujet qui est toujours très triste à aborder, parce que le château de Rosny était une merveille, et il a joué de malchance avec ses différents propriétaires dans cette période contemporaine, puisque après avoir été acheté par cette société japonaise dont le métier, en fait, de celle qu'il dirigeait était de dépecer les châteaux. Il a ensuite été racheté, je crois, par un groupe plus ou moins belge pour en faire un complexe hôtelier. Puis ça n'a pas eu lieu. Enfin, il a été revendu, je crois, en 2016. Il ne se passe rien, il se détériore, alors que c'est un château magnifique. Il y avait une laiterie de toute beauté, une bergerie, parce que c'était... période où tous les princes et les princesses devaient s'adonner à des activités et charitables et bucoliques et pastorales. Voilà.
Et puis même de musique. On faisait de la chasse, du tir au lapin. On allait en barque jusqu'à quelle ville. Mais enfin, on faisait toutes sortes de choses qu'on ne faisait pas ailleurs. Et je dois dire que la duchesse de Berry était très passionnée. Elle aimait danser, hein, donc on va dire que, donc il y a eu des bals, il y a eu des soirées, et il y a une petite encore, c'est toujours des anecdotes, mais les petites anecdotes font l'histoire, et la petite histoire fait la grande histoire finalement. Et elle aimait beaucoup un art qui a disparu et j'aimerais bien refaire, c'est de faire des fleurs en tissu. Elle a pris des cours avec un maître très célèbre à l'époque. Et Louise d'Artois va continuer cet art des fleurs en tissu. Et lorsque son grand-père, Charles X, mourra, elle fera un bouquet qu'elle va porter sur la tombe de son grand-père à Casinavita. Et figurez-vous que quand Madame de Gontaut, qui n'était plus bien en cour, mais qui est venue quand même après l'enterrement, elles sont descendues pour aller voir la tombe, prier sur la tombe, et les fleurs ont pris feu. Voilà, petite anecdote. Mais donc Marie-Caroline de Berry était fanatique des fleurs en tissu. Mmh. Mais j'ai eu la chance de trouver, il n'y a pas très longtemps, dans une brocante, une boîte avec tout ce qu'il faut pour faire les fleurs en tissu. Je ne sais pas faire.
Ah oui.
J'aimerais beaucoup. Ça, je lance un appel pour qu'on remette cet art à la mode. Ça doit être... je crois qu'il n'y a plus qu'une maison en France les plumassiers qui font les plumes et les fleurs en tissu un petit peu. Je pense qu'en Chine, ils doivent le faire.
La fleur en tissu, ce n'est pas la fleur artificielle. Ce n'est pas la fleur...
C'est artificiel quand même.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire,
c'est tout un art.
Ce n'est pas la même chose que les fausses fleurs que l'on voit qui sont
Non, ce n'est pas plastique.
Oui, bah ça, j'imagine.
Mais il fallait friser les pétales. Enfin, il y avait... La fabrication devait être...
Oui, mais c'est intéressant de savoir ça. Mais de toute façon, elles étaient très douées de leurs mains.
Oui.
Parce que quand on va visiter Gorizia et le palais dans lequel Charles X a vécu les derniers jours de sa vie, on voit des passementeries il y a ça aussi à Frosdorf, je crois, que faisait la duchesse d'Angoulême, donc Madame Royale, et qui étaient des passementeries. Enfin, elle était, paraît-il, très douée pour la passementerie. Ça s'appelle ce qui tient les rideaux, là.
Oui, les embrases.
Les embrases, voilà, je ne trouvais plus le mot.
Oui.
Elle faisait des glands d'embrases qu'elle envoyait en France et qui étaient vendus dans les fêtes
dans
de charité.
Dans les fêtes de charité, et Louise d'Artois va continuer la même chose. Et la duchesse d'Angoulême avait son fauteuil dans lequel... on avait pris le soin de le tourner vers un arbre qui lui rappelait les Tuileries.
Ah oui.
Donc...
Pour effectivement...
Dans quel brodé. Mais le soir, toutes les femmes, quand les soirées, les hommes jouaient au whist, etc., les femmes brodaient, tiraient de leur sac un ouvrage.
Mm-hmm.
J'avoue que je fais un peu comme ça. J'ai refait tout mon salon. Non, mais c'est...
Alors, Louise d'Artois connaître l'exil. Arrive 1830, c'est une petite jeune fille qui a
10 ans et demi.
C'est ça, donc elle est encore très jeune. Et elle va donc avec son frère, avec son grand-père, avec son oncle, sa tante, et puis peu sa mère, parce qu'on va expliquer pourquoi. Et ils vont connaître les affres de l'église et de voir savoir ce que c'est que de passer de lieu en lieu au gré de... alors d'abord de qui peut nous accueillir, donc là on est soumis aux aléas de la vie politique, et puis ensuite de quelle maison on va pouvoir trouver, de quel argent on dispose pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir entretenir du personnel, et donc ils vont aller en Angleterre d'abord, puis ensuite en Autriche.
Je crois que l'argent n'a pas été... C'était un problème, mais pas un gros problème, parce qu'il y avait déjà de l'argent en Angleterre, je pense, et en Autriche, il y avait de l'argent. Donc, ils ont pu quand même vivre, c'est pas été tout à fait comme 1789, où les gens étaient partis. Ayant connu 1789, ils avaient pris quand même leurs précautions. Hein. Alors, ils vont partir sur un bateau, le Great Britain, et Charles X avait peur qu'ils ne partent pour les États-Unis, enfin pour l'Amérique. En fait, ils vont être tout à fait contents, quand ils vont arriver devant l'île de Wight, ne sachant pas si les Anglais vont les prendre. Et donc, les Anglais vont mettre 5 jours quand même pour avoir l'autorisation. Et ils vont avoir le droit de résider s'ils ne font pas de politique et s'ils prennent des noms de courtoisie. Voilà le nom que je cherchais. C'était des noms de courtoisie.
Ici, c'est normal, hein, de courtoisie.
oui. Mais c'était des noms de courtoisie. Et... Ils vont donc aller tout de suite, quand ils vont débarquer en Angleterre, ils vont aller dans un premier château, qui est le château de Lulworth, qui est dans le Devon. Et ils vont y rester très peu de temps. Ils vont rester parce que tout est... L'eau tombe partout, du toit, etc. Ils vont s'habituer très peu, mais la vie va être difficile pour tout le monde. Et ils sont suivis, ils ne sont pas seuls. Il y a des fidèles qui les ont toujours accompagnés, suivis. Donc c'est bien, c'est pas 5 personnes ni 10 personnes, c'est 50 personnes qui arrivent, hein, facile. Donc il faut loger tout le monde, même si les gens louent à leurs frais des maisons, il faut quand même prendre le recul. Et à Lulworth, il va y avoir des débiteurs de Charles X qui vont le poursuivre. Donc, il ne va pas se sentir très à l'aise et il va vouloir changer de lieu. Ils vont aller tout de suite, il va obtenir l'autorisation d'aller en Écosse, dans un château où il avait déjà habité pendant l'immigration. Parce que j'ai fait la différence entre immigration et exil. Hein. Immigration, c'est temporaire. On ne sait pas très bien, mais c'est temporaire. L'exil, c'est définitif. Surtout qu'en avril 1832, on va dire qu'ils n'ont plus le droit de revenir en France. Donc, la chose est différente. Hein. Donc, ils vont aller s'installer dans le château de Marie Stuart, en fait.
À Holyrood.
Oui,
à Edimbourg. Oui, voilà, bien sûr. D'ailleurs, il y a des gravures très célèbres du petit duc de Bordeaux et de Mademoiselle d'Artois, bah oui, en petit écossais,
oui,
charmant, avec tartan.
Oui, parce que le duc de Bordeaux avait fait tout un tour de l'Écosse. Et pas Louise. Hein. Louise, elle est toujours au second plan. Louise est toujours derrière. Quand on nomme un moment, au moment où ils vont quitter le Saint-Cloud pour se diriger vers Cherbourg, etc., elle est derrière son frère, qu'on nomme roi. L'éducation est donnée au comte de Chambord. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que lui, il ne règnera jamais, tandis qu'elle, elle va régner. Bon, bref, il s'installe à Holyrood. Et là, c'est la duchesse de Berry va faire des siennes, va dire qu'elle ne veut plus rester, que Charles X a perdu le royaume de son fils, qu'elle va aller le reconquérir. Enfin, c'est grosso modo, hein, c'était plus en finesse quand même. Et elle va rentrer sur la France et la fameuse équipée de Vendée et ce qui s'ensuit. Et Charles X va prendre les choses pas très très bien. Donc il va commencer à comprendre qu'il doit posséder les petits-enfants. Donc ils vont faire leur communion à Holyrood et elle ne sera pas là. Donc là ils ont été formés, préparés à la communion par un certain abbé Busson. Et ensuite, mais ça c'était déjà à Paris, ils avaient déjà eu la structure religieuse par Dupanloup. Dupanloup qui était vicaire à la Madeleine et qui venait aux Tuileries les instruire. Donc ils vont recevoir la communion des mains du Monseigneur de Latil. Marie-Caroline ne sera pas là.
Allez-y, je vous en prie. Je voulais juste savoir combien de temps il nous restait, oui, parce que quand je vois la longue vie, même si elle meurt à 44 ans et que là...
Oui, elle va abréger peut-être la fin.
Elle a une dizaine d'années seulement. Bah,
mais je pense que c'est ce qui s'est passé en France qui est très intéressant, parce que toute la formation.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une femme... Oui, je vous en prie, de toute façon, ça n'est pas grave. Les auditeurs n'ont pas besoin de connaître l'intégralité de sa vie à l'issue de nos 55 minutes d'émission. C'est juste pour préciser à nos auditeurs qu'elle perd son père, elle a quelques mois en 1920, elle va perdre son mari en 1854, elle va connaître l'exil comme nous venons de le montrer et elle meurt à 44 ans.
Donc j'avance.
Compte tout ce que cette femme va connaître dans sa vie, dans sa courte vie, c'est quand même assez terrible. Bon. Mais on peut peut-être passer sur ces années d'exil où elle va ensuite aller
à Prague. Elle va quand même aller
à Erda Chine,
c'est important. Je ne voyais pas l'heure non plus, parce que je peux vous parler pendant très longtemps. Non, ils vont passer quelques années à Erda Chine, où il va se passer quelque chose d'important, c'est les 14 ans, la majorité de son frère, où la jeune noblesse va vouloir venir fêter, etc. Et Marie-Caroline va renouer, à ce moment-là, elle va vouloir venir voir son fils, ce qui va poser problème à Metternich, à l'empereur d'Autriche, on va tout faire pour l'empêcher. Elle va quand même venir, tout le monde va se revoir dans une ville qui s'appelle Leoben, je ne sais pas si je prononce bien, où ils vont dans des hôtels différents, mais Marie-Caroline s'est remariée. Elle est maintenant comtesse de Lucchesi-Pali, et donc elle a d'autres enfants. Avant qu'elle ne revoie ses enfants, Charles X a pris la précaution de savoir si le mariage était fait. Il a envoyé Monsieur de Montbel vérifier dans les registres à Rome. Donc, Marie-Caroline a d'autres enfants. Il a fallu la prendre à Louise et à son frère, ce qui ne s'est pas toujours très bien passé. Puis tout le monde va se réconcilier, on va se revoir. Mais Madame d'Angoulême et Charles X vont vraiment s'approprier les enfants. Et ils vont leur donner une éducation très ancienne, qui ne correspondait pas à l'époque. Et Marie-Caroline, il va y avoir des luttes, même parmi les familiers qui vont se séparer. Mais les circonstances font qu'ils vont être obligés de quitter Ardachine parce que l'empereur d'Autriche est mort et il y a un nouvel empereur qui va être obligé de venir à Prague. Donc tout le monde s'en va. On va se retrouver à Kirchberg, dans un château acheté par le duc de Blacas. Là, il va y avoir un certain temps. Ils doivent aller sur Charles, il a choisi Gorizé parce que cette tente y était, parce qu'il y avait un climat qui était bon pour lui et parce que cette tente y était passée. Malheureusement, il y a le choléra, il faut attendre. Enfin, bref, c'est comme ça qu'ils sont retrouvés à Kirchberg. Ils vont à Gorizé. Là, Charles X va mourir parce qu'il va attraper le choléra. Mais le duc d'Angoulême va être un fils extraordinaire avec son père. On le voit en train de nouer l'écharpe de son père, lui ramasser son mouchoir, c'est assez émouvant. Et Charles X ne voit que par le duc de Bordeaux, hein. Son fils. Donc là, il va mourir. Ensuite, le duc de Bordeaux va avoir un très grave accident de cheval. Il va se casser le col du fémur. Louise va le soigner. Elle lui offre des petites peintures parce qu'elle est excellente en peinture, qu'elle appelle des consolations. Donc tous les jours, elle lui fait un dessin. Elle va soigner sa tante parce que Madame d'Angoulême vieillit et malade. Donc elle va aussi soigner sa tante. Toujours dans les gens qui viennent les voir, elle s'occupe d'eux pour savoir les logements, pour savoir comment tout se passe. Elle est tout le temps présente. Il y a un autre personnage qu'on peut pas ignorer, c'est Chateaubriand, qui vient souvent les voir, qui fait les liens entre Marie-Caroline et la famille royale. Enfin, vous voyez, c'est toute l'histoire de France qui passe à Kirchberg et à Gorizé. Alors, enfin, ils ont s'établi à Gorizé, donc là, Charles X meurt. Ils vont rester à Gorizé. Ils vont partager entre Gorizé et Kirchberg. Et puis, à Gorizé, ça ne laisse pas des bons souvenirs parce que le duc d'Angoulême va mourir aussi. Donc, c'est un grand trou parce que c'était leur père, quand même. C'était celui qui les avait... Il était toujours dans l'ombre.
Approchez-vous du micro.
Il était toujours dans l'ombre. Et donc, il était présent. Et les enfants, elle l'adorait. Bon. On dit que c'est un saint. On a dit qu'il était toujours... un homme extraordinaire, mais très discret, qu'on prend pour un personnage falot, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Bon, ensuite, à Gorizé, ils vont ensuite aller s'installer à Frohsdorf. Et là, à peine au bout d'un an, Louise va se marier. Elle va rencontrer, parce qu'on se demandait qui elle pouvait l'épouser, elle a déjà 25 ans. Donc, arrive ce fameux duc de Luc, parce qu'il n'est pas encore duc de Parme. Il doit récupérer le duché de Parme quand Marie-Louise, la femme de Napoléon, mourra. Parce qu'on lui avait dit, le congrès de Vienne l'avait installé à Parme. Et le duc de Luc, il a un fils qui pose problème, qui fait beaucoup de bêtises. Donc, quand ils ont vu Louise d'Artois, etc., il a 4 ans de moins que Louise d'Artois, le mari. Tout le monde est enchanté. Le duc de Bordeaux est devenu comte de Chambord. Et tout content de ce qui va se passer, ça va être un mariage royal. Il va y avoir l'impératrice régnante d'Autriche qui va être présente, qui va donner le bras au marié pour conduire à l'hôtel. Et la belle-mère, qui était aussi impératrice, sera là. Enfin, c'est un mariage qui aurait pu avoir lieu presque à Versailles, si vous voulez. Bon, les lieux ne sont pas les mêmes, mais bien entendu. Mais c'est vraiment le grand... Louise est amoureuse de son mari. Lui, beaucoup moins. Donc, ils vont gagner Luc. Ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'il va y avoir des soulèvements. Ils vont être obligés de partir. Le beau-père... qui sera Charles II de Parme, lui, c'est pas non plus quelqu'un de très très sérieux. Il vit séparément avec sa femme qui, elle, ne pense que religion et qui vit avec des prêtres et des religieuses dans une maison à côté. Donc, quand il peut rendre son duché au duc de Toscane qui devait récupérer quand Marie-Louise d'Autriche mourrait, il le fait. Mais à ce moment-là, des soulèvements et ils sont obligés de partir en exil. Et Louise va se retrouver à Turin pendant quelques mois. Entre-temps, elle va avoir des enfants, la première, la petite Marguerite, et puis elle rejoint Parme. Non, elle rejoint pas Parme. Elle rejoint Florence parce qu'il y a des guerres qui se. Son mari, lui, part en Savoie, il retourne à Turin, et là, on l'arrête parce qu'il y a des histoires entre la maison de Savoie et le duc de Luc Parme, enfin, voyez. Donc, le beau-père a cru que c'était bien d'envoyer son fils pour entrer dans l'armée de Piémont-Sardaigne, mais le prince Piémont-Sardaigne le fait arrêter. Donc, Louise va se retrouver avec des gens qui vont se soulever. Elle va... Enfin, c'est une vie compliquée.
Ah, c'est sûr qu'elle aura...
Elle va se retrouver son mari qui s'est échappé. Ils vont se retrouver en Angleterre, où la reine Victoria adore Louise, ne veut pas s'en séparer. Mais quand le beau-père, qui est devenu duc de Parme entre-temps, abdique en faveur de son fils...
Il faut bien y aller. Mes chers Dominique Sabourdin-Perrin, malheureusement, notre émission arrive à son terme. Les auditeurs se plongeront dans votre ouvrage pour en savoir davantage et voir la fin de cette femme qui a la chance... Une chance finale, c'est qu'elle meure à Venise. Je ne sais pas si à 44 ans, on est content de mourir à Venise. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Louise d'Artois, princesse européenne aux éditions Salvator. Pardon d'arrêter ainsi notre émission, mais elle se termine. Chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.
Vous venez d'entendre les Mardis de la mémoire, dirigés par Anne Collin, émission préenregistrée le 10 juin 2025 et diffusée pour la première fois mardi 3 mars 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.